Louis Pergaud, le roman de Miro, chien de chasse, troisième partie, chapitre 7. Cependant, la boîte de Miro et son passage dans le pays n'avaient pas été sans être remarqués. La guélotte, en train de sarcler le jardin qu'ils avaient en dehors du village, dans les clos de la fin de sous, fut avisée de l'événement par la fémie, qui accourut à elle, les bras levés, comme pour annoncer un grand malheur. Cette grande bringue, pourtant, comme disait Lisée, n'avait plus rien à craindre pour ses poules, puisque depuis fort longtemps, le chien avait renoncé à ce gibier stupide. Mais il n'était toujours point camarade, et elle avait conservé pour Miro une haine farouche. La fémie, donc, vint aviser la guélotte de ce retour, et de la joie non dissimulée de Lisée. Immédiatement, craignant toujours pour la sécurité du marché et redoutant la restitution des 300 francs, elle rentra à la maison afin de rappeler à son mari que le chien n'était plus à lui et lui remettre en mémoire les promesses qu'il avait faites à son acquéreur. Elle les trouva tous deux, l'homme et le chien, dans la chambre du poêle, en train de se caresser et de se tenir des discours réciproques, qui devaient être d'ailleurs parfaitement inutiles. Miro était heureux. Il ignorait ce que c'est qu'un marché. Du moment que Lisée le recevait bien, il pouvait croire que l'ère de la séparation était révolue et que c'en était fini du cauchemar du Val. L'arrivée de la patronne jeta une ombre sur sa joie et lui fit se souvenir qu'il avait toujours en elle une ennemie. Par politesse toutefois, par bonté de cœur, pour montrer qu'il ne gardait à personne rancune du méchant tour qu'on lui avait joué, il vint à elle et voulut la caresser. Mais elle le repoussa brutalement en disant « Qu'est-ce qu'elle revient faire ici, cette sale charogne ?» et s'adressant à son mari. « Tu sais, ce n'est pas honnête ce que tu fais là. Tu avais promis à M. Pitancet de ne pas le rattirer s'il revenait. » Et je me demande ce qu'il dirait s'il venait vous trouver ici, tous les deux, comme des idiots, à vous faire des mamours. Tu as fait un marché avec cet homme. Il t'a payé largement. Si tu agis de telle sorte que le chien se sauve toujours de sa maison, c'est comme si tu le volais. Si Miro ne veut pas rester là-bas, je ne peux pourtant pas... Et puis enfin, je ne suis pas allée le chercher. Il est là, ce chien, et je ne veux pas le tuer puisqu'il n'est pas à moi. Il ne veut pas s'en aller tout seul. Les premières fois, on est toujours obligé de venir les rechercher. D'ailleurs, si ce monsieur ne veut pas qu'il se sauve, il n'a qu'à le soigner et à mieux le garder. Tu vas lui écrire tout de suite qu'il revienne le reprendre le plus tôt possible, exigea la patronne. Ça ne presse pas, atermoya Lisée. Monsieur Pitancet pensera bien qu'il s'en est venu ici et il viendra le chercher sans qu'on ait à le prévenir. « Eh bien, si tu n'écris pas, c'est moi qui vais écrire. S'il allait rechasser ici, c'est peut-être encore nous qui écoperions. »« Écris si tu veux, concéda Lisée. C'est 3 sous de foutu, tout simplement. » Le soir même, une lettre à l'adresse de M. Pitancet le prévenait de l'équiper de son chien, et le lendemain après-midi, il remontait la côte avec son cheval et sa voiture. Miro avait écouté d'une oreille attentive la discussion. Le nom de l'homme du Val, prononcé à plusieurs reprises, l'avait très inquiété. Pourtant, comme la patronne n'avait pas trop crié, qu'elle n'avait pas fait d'éclat, qu'elle ne l'avait ni chassé, ni battu, il put croire qu'elle consentait à sa réintégration au foyer et ne condamnait pas trop son retour. Il eut, le soir, le plaisir de voir Philomène et Mirette, qui, ayant appris son retour, vint lui faire une petite visite d'amitié et s'enquérir, chacun à sa façon, des péripéties de son voyage et de son arrivée. Les deux hommes ne purent s'entretenir seul à seul. Leur conversation se ressentait de cette gêne, car la guélotte, soupçonnant entre eux, qui sait, peut-être un vague projet d'entente au sujet de Miro, ne les quitta point d'une semelle et accompagna même son homme lorsqu'il reconduisit jusqu'au seuil le chasseur qui allait se coucher. Lisée, néanmoins, avait dit son émotion et sa joie à voir que le chien ne l'avait point oublié et avait su, sans s'égarer, franchir les 20 ou 30 kilomètres qui séparent la commune du Val du territoire de Longeverne. Ils se souvinrent des beaux jours vécus, des grandes randonnées précédentes, des longues parties de jadis. On évoqua la mémoire de Bellone et de Fanfare. On parla de la jambe de Pépé qui allait de mieux en mieux. Et, sans qu'on en eût soufflé mot, à la seule idée de la nouvelle séparation et du prochain départ du chien, on se sépara tout triste. Cependant, Miro dormait derrière le poêle, Moute d'un côté, Mic de l'autre. Car Mitis, depuis 4 jours, tenté par le soleil et s'ennuyant au village, avait déserté la maison et vadrouillait, disait Lisée, à travers champs où il faisait une chasse terrible au nid de caille et aux compagnies de perdreau. Les deux chattes étaient toutes contentes, elles aussi, d'avoir retrouvé leurs camarades. Ils s'étaient parlé brièvement. La vieille Mic avait eu l'air d'interroger « Ron ?» Miro avait répondu « Beau !» Et toute une histoire tenait dans ces syllabes, lourdes de sens et profondément nuancées. On s'était fait des gros dos et des frôlements, on s'était donné des coups de patte et des coups de langue, et l'on se trouvait heureux, tout simplement. Miro se tranquillisait. Il passa une excellente nuit, une matinée meilleure encore, espérant l'heure où Lisée l'emmènerait faire un tour par le village ou dans les champs. Mais comme il s'étirait du devant d'abord, du derrière ensuite, pour indiquer qu'il s'ennuyait, le pas terrible et qu'il ne connaissait que trop déjà, le pas de M. Pitancet retentit sur le pavé de la cour et le fit tressaillir d'étonnement et d'angoisse. De saisissement, il n'aboya pas, mais comme pour chercher un refuge, il se précipita vers Lisée. À ce moment, la porte s'ouvrait. Et la voix du maître, souhaitant le bonjour à la guélotte, retentit. « Mon pauvre Mimi !» s'apitoya le chasseur, en posant sa main sur le crâne de son ami. L'homme entra, et le chien, en le voyant, eut un instinctif mouvement de recul. Pourtant, comme il était impossible d'éviter la rencontre, et que ce nouveau maître n'avait jamais été méchant pour lui, il ne fuit pas, s'approcha en rampant à son appel, et étendu à ses pieds, le regarda de ses yeux suppliants, qui semblaient dire « Je t'en prie, laisse-moi ici, ou reste avec nous. Je ne saurais m'accoutumer à habiter au Val. » Monsieur Pitancet le caressa, lui reprocha doucement, avec de petits mots d'amitié, sa fugue hypocrite, et, sans rancune, lui offrit un petit bout de sucre. Miro n'y toucha point, et le laissa tomber. Mais, reconnaissant tout de même de ce geste de générosité, il lécha les doigts du bourreau et se coucha docilement, comme résigné à son sort. Miro avait son idée. Sans en avoir l'air, il guettait la porte et profita d'une minute d'inattention pour gagner la cuisine. Malheureusement pour lui, l'ouverture du dehors était close, et il ne put, agissant vite avant qu'on ne le remarquât, que gagner la remise et l'écurie, où il se disposa à se cacher habilement. Lisée offrit un verre à M. Pitancet, qui voulut à toute force régler la dépense de Miro. Par politesse, celui-ci accepta de trinquer. Puis, la chose faite, il tira de sa poche une chaîne d'acier pour attraper le chien. Le croyant à la cuisine, il l'appela. Mais Miro ne vint point. Lisée, estimant qu'il obéirait mieux à sa voix, l'appela à son tour, mais il ne parut pas davantage. « Il n'est pas sorti pourtant, affirmait la guélotte. La porte n'a pas été ouverte. Il est sans doute allé dormir à la remise. » On s'en fut à la remise, et l'on alla jeter un coup d'œil à l'écurie. Mais pas plus à un endroit qu'à un autre, on aperçut de Miro. On l'appela, on cria son nom. Il ne répondit, ni n'accourut. Sapristi, s'étonnait M. Pitancet. Mais il est pourtant quelque part. Et si rien n'a été ouvert, il ne peut être que dans la maison. Pour être puissamment déduit, ce raisonnement ne faisait toujours pas retrouver le chien. Il est probablement monté à la grange, hasarda la Guélotte. La grange fut visitée, explorée et sondée dans tous les recoins accessibles. Miro n'y était pas. Il ne peut être qu'à la remise ou à l'écurie, conclut la Guélotte, qui, prise d'un soupçon, regardait d'un œil sévère son mari. « Tu n'aurais pas ouvert la porte en allant à la cave tout à l'heure » demanda-t-elle. « En fait de porte, je n'ai ouvert que celle de l'armoire pour prendre la bouteille de gouttes, » répliqua Lisée. « Je n'ai pas quitté un seul instant M. Pitancet, qui n'a pas voulu que je descende. »« Enfin, ce chien n'est pas rentré sous terre tout de même. Il n'aurait pas eu l'idée de se cacher, » émit ce dernier. Lisée hocha la tête, indiquant par ce geste que Miro était au contraire bien capable de cela, et de toute autre chose encore, par exemple d'avoir réussi à prendre tout seul, et par des moyens de lui seul connus, la clé des champs. Il rappela le carreau cassé de jadis, et l'on refit, sur sa demande, une minutieuse inspection des ouvertures qui n'amena rien de nouveau. À la fin des fins, on se résolut à tenir en détail et dans tous les coins et recoins l'écurie et la remise. On commença par l'écurie. On visita les crèches dessus et dessous. On retourna l'amas de paille entassée dans un coin. On regarda entre le mur et la cage à lapins, sur la brouette, derrière les portes. Nulle part on ne trouva trace de son passage. Dans la remise, l'inspection se continua minutieusement. On bouscula toutes les caisses. On chercha dans tous les recoins. Tout avait été chambardé. Il ne restait plus qu'un endroit qui n'avait pas été exploré. Mais il semblait impossible que le chien y fût. C'était un amas hétéroclite, de vieilles planches et de vieux paniers, d'outils au rebut, de manches cassées, de vieilles hardes, de cuir de joue pourri, entassés au petit bonheur contre une vieille crèche, elle-même pleine de débris très antiques et sans aucune valeur. « C'est idiot de penser qu'il est là, derrière ou là-dessous, » disait M. Pitancet. « Qu'est-ce qu'il y foutrait? Et comment aurait-il pu s'y fourrer? Un chat aurait déjà du mal à s'y frayer un passage. » Comme il n'y avait plus que cet endroit-là qui n'avait pas été mis à nu, on continua tout de même de le déblayer. Ce ne fut qu'à la dernière planche soulevée, et quand on désespérait, qu'on découvrit bel et bien Miro qui s'était réfugié là-dessous. Comment? Au prix de quels travaux? Il avait dû se faufiler, s'allonger, s'aplatir, se raser. Et il était là, devant tous, couché vaguement, plutôt accroupi, rattroupé sur lui-même. Il n'essaya d'ailleurs point de feindre davantage et de simuler le sommeil, il n'était pas si stupide. Mais il se contenta de battre lentement son fouet et de contempler de son regard profond et si triste le trio qui le déterrait de là. Il eut pour Lisée surtout un coup d'œil impressionnant, comme un reproche muet. Un coup d'œil qui semblait lui demander raison de cet abandon. Un coup d'œil tel que l'autre n'y put tenir. Et, laissant la Guélotte et M. Pitancet se débrouiller avec lui comme il l'entendrait, le cœur chaviré, d'une douleur plus vive encore qu'au premier jour, il alla par les rues du village comme une âme en peine et s'en vint échouer chez Philomène. Quand il ne vit plus son vieux maître, quand il se sentit seul, abandonné aux mains de ces deux êtres dont l'un le détestait, dont l'autre lui imposait l'exil, Miro comprit qu'il n'avait pas de sursis à attendre, ni de grâce à espérer. Il se laissa passer la chaîne et conduire à la voiture, où, attaché de nouveau, il fut bientôt emporté au galop du cheval qui filait de rechef sur la route du Val. Lisée, entendant les grelots sonner dans le fracas des roues, eut un geste d'accablement. « C'est plus fort que moi, affirma-t-il, mais je ne peux pas m'y faire. Je ne peux pas me raisonner, une si bonne bête. Bon Dieu, que les hommes sont lâches et les femmes mauvaises. Quand Mirette fera des petits, je t'en élèverai un, offrit Philomène, qui ne savait que trouver pour consoler un peu son amie. Merci, mon vieux, merci, non. C'est Miro, vois-tu, qu'il me faut. Je ne pourrai plus rien faire avec un autre. À Velleran, Pépé revit encore passer la voiture fatale en portant Miro, qui sans doute le reconnut, car il jappa en passant. Peut-être un adieu, peut-être un appel. Le chasseur en fut tout retourné. Il avait interrogé des gens et avait appris l'histoire des procès-verbaux et la surprise de la vente. En bon camarade, il se désolait de n'avoir pu rencontrer Lisée, car il se doutait des terribles étamines par lesquelles il avait dû passer avant de s'avouer vaincu et de céder. « Peut-être aurais-je pu l'aider, se disait-il. Pourquoi n'est-il pas venu me voir non plus? Si c'était des sous qui lui manquaient, il n'aurait eu qu'à dire un mot. J'ai toujours quelque part dans un bas de laine un 100 d'écu de réserve en cas de malheur, que personne ne sait, pas même la bourgeoise, pour me tirer d'un mauvais pas ou pour obliger un ami. » Et il enrageait en pensant qu'il n'était pas encore tout à fait assez valide pour accomplir seul, aller et retour, le voyage à pied de Longeverne. Mais il se promit, dès qu'une voiture irait là-bas, de saisir l'occasion par les cheveux, d'aller demander lui-même des explications à son copain et lui offrir, s'il en était encore temps, ses services. Miro, assurément très triste d'être ramené au Val, n'était cependant pas aussi désespéré que le premier jour, car il avait au cœur le secret espoir de s'échapper encore, et bientôt, surtout maintenant qu'il savait la manière de s'y prendre et de revenir de nouveau à Longeverne. Rien n'aurait su le distraire de ce projet, ni personne l'empêcher de le réaliser. Un chien qui s'est mis en tête une idée n'en démord pas. Et Miro était un vrai chien, un fameux chien, un sacré chien, comme on disait. Il se jura donc, chaque fois qu'il serait libre, de filer, bon gré mal gré, de lasser la patience de son acheteur, de lui éreinter son cheval, et de vaincre coûte que coûte l'indifférence ou la faiblesse de Lisée. Il n'habiterait qu'à Longeverne, cela seul était certain. Il y vivrait comme il pourrait. Mais il resterait là, et rien ni personne ne saurait l'en empêcher. Ce fut pour cela qu'il n'opposa aucune résistance, simula l'obéissance, rentra dans la maison du Val comme s'il revenait chez lui, accepta toutes les caresses et les rendit, mangea autant qu'on voulut, suivit docilement en promenade M. Pitancet, jusqu'au jour où, bien convaincu de son actumance, le patron lui retira la laisse et le laissa libre dans la maison.